Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet intitulé « Le projet des disciples ». Et on va voir comment le Seigneur a pu développer une équipe qui se compose de plusieurs disciples très hétérogènes, ayant des contextes complètement différents. Et donc, la question principale qu'on va se poser, bien l'objectif de n'importe quel évangélisateur ou prêcheur qui va pour prêcher dans n'importe quel pays, c'est de développer une équipe locale. C'est-à-dire, par exemple, quand nous allons partir en Côte d'Ivoire ou bien au Burundi, notre objectif sera de développer des Ivoiriens, de former une équipe qui se compose d'Ivoiriens afin que cette équipe puisse, dans un premier temps, nous aider à évangéliser, et dans un deuxième temps, qu'eux-mêmes, ils puissent évangéliser d'autres non-croyants. Donc l'objectif primordial d'un missionnaire, c'est le développement donc des serviteurs locaux pour des considérations liées d'abord à la culture, parce qu'évidemment, des Ivoiriens vont connaître les coutumes ou bien les habitudes des Ivoiriens plus que nous qui sommes donc des Égyptiens. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que les Ivoiriens connaissent évidemment les dialectes locaux, donc ils pourront mieux parler avec leurs compatriotes. Et troisième point, c'est tous les détails de la vie quotidienne, c'est-à-dire, si vous vous rappelez, il y a 3 ou 4 semaines, on a vu dans le cours de M. Shérif Chokri, quand il a présenté quelles sont les différentes habitudes des Africains, quels signes il faut faire, quels signes il faut éviter. Tout ça, on ne peut pas le connaître, ou bien on ne peut pas avoir une idée de tout ça sans des personnes ayant donc la même nationalité, ou bien des personnes provenant du même pays. Donc aujourd'hui, on va parler de l'idée d'après laquelle comment on peut développer une équipe locale qui se compose donc, on va dire, des disciples, comme le Seigneur, lui, il a formé une équipe qui se compose donc de ses 12 disciples. Ok. Donc, c'est quoi l'intérêt de développer une équipe locale ou bien des disciples locaux? Donc, évidemment, le premier point, c'est d'avoir une meilleure compréhension des gens, parce que comme on l'a dit tout au début, c'est que les gens locaux, ils comprennent mieux leurs compatriotes que nous qui sommes donc des visiteurs pour ce pays. Deuxièmement, de mieux cibler le public en question, c'est-à-dire que eux, ils vont connaître les besoins de leurs compatriotes, ils vont connaître, ou bien ils vont savoir comment on peut les atteindre, et du coup, ils vont nous aider à mieux cibler ça. Troisièmement, évidemment, ça nous facilite la tâche, parce que nous, au maximum, on sera une dizaine, une vingtaine, même une trentaine, mais jamais on peut satisfaire toutes les demandes locales. Donc, on a besoin de personnes qui nous aident à prêcher et à évangéliser. Et évidemment, ça c'est le point le plus important, c'est d'évangéliser les futurs évangélisateurs qui vont évangéliser les non-croyants qui ne sont pas encore évangélisés. Donc, je vais redire ça. Donc, c'est d'évangéliser, donc, c'est-à-dire de former les futurs prêcheurs qui vont rester sur place, puisque nous, un jour ou l'autre, on va quitter ce pays. Donc, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un du pays lui-même qui va évangéliser ces personnes sur place, afin donc d'avoir donc plusieurs générations, on va dire, d'évangélisateurs, et le message donc se propage d'une personne à l'autre. Donc, ça nous permet donc d'évangéliser les futurs évangélisateurs qui vont évangéliser leurs compatriotes non évangélisés. Ok? Donc, ça c'est l'intérêt de former une équipe locale. Pourquoi on la forme? Et donc, les deux questions qu'on va se poser tout au long de notre présentation, c'est comment le Seigneur a-t-il développé ses disciples? Comment il a formé cette équipe? Et en deuxième lieu, on va voir comment a-t-il pu créer une équipe qui se compose de personnes très hétérogènes. Il y avait des pêcheurs qui pêchent des poissons, pas des pêcheurs roto. Il y avait des collecteurs d'impôts. Il y avait vraiment des personnes très hétérogènes. Donc lui, il a pu faire un groupe très homogène. Et cette équipe qui était auparavant très hétérogène, comme c'est dit dans l'acte des apôtres, ils ont bouleversé le monde. Et en arabe, le verset est encore beaucoup plus expressif. Il dit que Allazina fatanul maskoun. Donc, on va voir comment, évidemment, on ne va pas bouleverser le monde, mais on va voir comment le Seigneur, à travers sa formation, il a créé cette équipe qui a bouleversé le monde. Donc, notre plan, on va voir donc trois parties. Dans un premier temps, on va lire un extrait de l'Évangile selon Saint Jean. Puis, on va voir comment le Seigneur il a développé cette équipe à travers quatre étapes principales. Une première étape, la réflexion. Puis, comment analyser tout problème. Troisième étape, comment trouver des solutions. Et finalement, comment mettre en place un système pour bien évangéliser. Ok, et finalement, on va conclure. Donc, ça c'est un extrait du livre de Saint Jean. Est-ce que quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît? Quelqu'un peut se déplacer pour le lire ici? Un bénévole?
Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Amen.
Gloire à Dieu éternellement. Donc, comme vous avez vu, donc cet extrait donc du livre de l'Évangile donc selon Saint Jean, c'est le miracle donc de la multiplication des 2 poissons et des 5 pains. Et ça, c'est parmi les seuls miracles qui sont cités dans les 4 Évangiles. Et comme vous le savez aussi, cet extrait de l'Évangile, on le lit normalement quand il y a un cinquième dimanche dans les mois coptes, c'est-à-dire normalement dans le Kotamoros, le lectionnaire, il y a des lectures pour 4 dimanches, mais quand on a un cinquième dimanche, exceptionnellement, on lit cet évangile qui est l'évangile de la bénédiction, ou bien Ngir el-Baraka. Okay? Comme quoi, le cinquième dimanche, qui est le jour de la résurrection, c'est un dimanche béni, et donc on lit cet extrait d'évangile. Donc ce qu'on va essayer de faire, après avoir lu cet extrait, on va décortiquer un peu ce passage de l'Évangile pour voir comment le Seigneur, à travers plusieurs étapes, il a pu apprendre à ses disciples comment se débrouiller, comment, s'il y a un certain problème, ils peuvent le surmonter, à travers dans les 4 étapes que j'ai présentées dans l'introduction, qui sont la réflexion, l'analyse, la solution et le système. Donc, première étape, c'est que, évidemment, pour avoir des disciples qui peuvent se débrouiller, il faut que ces disciples puissent réfléchir. C'est-à-dire que si on a un problème, il ne faut jamais proposer tout de suite des solutions immédiates. Mais évidemment, il faut permettre aux personnes qui nous aident ou bien qui sont avec nous dans notre équipe de réfléchir, de bien penser, afin d'aboutir ensemble à une solution. Parce qu'évidemment, si on ne réfléchit pas, il n'y aura aucun changement. Et ça, c'est ça ce qu'a dit Saint Paul dans son épître aux Romains, c'est que « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, en arabe, ce verset dit donc « تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. » Donc, sans réflexion, sans intelligence, il n'y a aucune transformation. Donc, si on veut transformer les gens locaux qu'on va prêcher, il faut les aider à bien réfléchir et à surmonter les problèmes. Il confirme ça donc même dans l'Ancien Testament. Mais celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Donc vraiment, l'intelligence est une source de glorification de Dieu, parce qu'il nous donne une certaine sagesse afin donc de surmonter ces problèmes. Donc première étape, quand il y a n'importe quel problème, il ne faut jamais proposer des solutions, mais il faut qu'on réfléchisse ensemble. Donc il faut aider les personnes avec qui on travaille à réfléchir et qu'eux-mêmes proposent donc des solutions. Donc, en appliquant ceci au passage qu'on vient de lire, donc on avait un problème très compliqué, donc avec plusieurs dimensions. Déjà, comme on lit dans l'évangile de Saint Jean, il y avait beaucoup de personnes, donc ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui. Donc, on a beaucoup de personnes. Ces personnes sont affamées, donc ça fait maintenant plusieurs heures, donc ils n'ont pas mangé et il faut leur donner à manger. Donc, ça c'est un premier problème. Un deuxième problème, il fait nuit. Donc le jour commençait à tomber, évidemment on ne peut pas se déplacer, il faut chercher une solution sur place. Et un troisième problème, c'est le désert, et c'est à ce qu'a dit donc un de ses disciples, « Renvoie la foule pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Donc, comme on fait face à ce problème, il faut, évidemment le Seigneur aurait pu résoudre le problème avec un miracle immédiat, mais il n'a pas fait cela. Avant donc de faire le miracle, il a discuté avec ses disciples afin de leur inciter à réfléchir et à proposer toutes les solutions qu'ils peuvent proposer. Et après lui, il intervient. La réaction du Seigneur, donc il n'a pas fait un miracle immédiat. Il a demandé à Philippe, et c'est lui qui a demandé à Philippe. C'est même dans l'évangile de Saint Jean, c'est même pas un de ses disciples qui lui a demandé, mais c'est lui qui l'a commencé. Donc, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Et puis, il dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Évidemment, le Seigneur, il sait très bien qu'il n'avait pas des ressources qui leur permettent de faire cela. Mais il a posé cette question, non pas pour les examiner ou bien pour leur faire passer un examen, mais pour les inciter à réfléchir et à voir ce qu'ils vont faire. Donc tout ça en vue de leur permettre de bien réfléchir à ce qui doit être fait, parce qu'il disait cela pour les prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Évidemment, le Seigneur, c'est notre Dieu, il sait ce qu'il allait faire, il sait qu'avec un miracle, il peut résoudre tous les problèmes, mais il ne veut pas faire ça tout de suite pour que ses disciples, après, si jamais ils vont face à n'importe quel problème, ils peuvent eux aussi se débrouiller. Ok ? Donc première étape, c'est la réflexion. On a dit qu'il y avait un certain problème. Ce problème, c'est qu'on est dans le désert, il faisait nuit, on a beaucoup de personnes qui avaient faim. Donc c'est un problème à trois dimensions. Il faut donc résoudre les trois problèmes ensemble. Le Seigneur, évidemment, aurait pu très bien résoudre ce problème immédiatement, mais il n'a pas fait pour que ses disciples puissent réfléchir. Deuxième étape, c'est l'étape d'analyse. Donc, on a un problème, il faut analyser toutes les dimensions de ce problème pour pouvoir trouver la bonne solution. Donc, une fois qu'on a aidé les gens donc à réfléchir, il faut faire un diagnostic de la situation. Et donc, les questions normalement qu'on se pose afin de trouver une solution ensemble, et je dis ensemble parce que ce n'est pas le Seigneur tout seul qui va trouver la solution, bien qu'il la connaisse très bien, mais il va la trouver avec ses disciples. Ok ? Donc, cinq questions principales qu'on se pose et qu'on va analysé après dans le d'après dans, donc l'extrait de l'évangile de Saint Jean. Donc quel est le problème? Quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on veut faire? Donc ça c'est deuxième question. Troisième question, quels sont les moyens dont on dispose? Quatrièmement, quelles sont nos limites? Et finalement, quelles sont les alternatives? Donc quel est le problème en place? Donc, quel est le problème en place? Quel est l'objectif qu'on veut réaliser? Quelles sont les limites? Quelles sont les alternatives? Et quels sont les moyens dont on dispose? Et évidemment, le Seigneur, lui, je le répète, donc il savait tout ce qu'il voulait faire, mais il voulait que la solution vienne de la part de ses disciples. Et c'est pour cela que ses disciples, une fois qu'il leur a posé la question, ils ont proposé toutes les solutions qu'ils avaient en tête. Donc Philippe a dit au début, on veut pour acheter donc du pain ou bien de quoi manger pour tous ces gens, on a besoin donc de 200 dirhams, donc ce qui est équivalent donc au salaire de, si je me rappelle bien, de 7 mois, parce que le salaire d'un jour c'est un dirham, et donc ça fait plus ou moins le salaire de 7 mois, ce qui est impossible. Puis André a dit, on a 2 poissons et 5 pains. Et évidemment, toutes ces solutions, bien qu'elles soient, on va dire, pas très envisageables ou bien difficiles à réaliser, ils l'ont proposé. Pourquoi ils l'ont proposé? Parce qu'ils savaient très bien que la relation entre eux et le Seigneur, c'est une relation informelle. Donc ils peuvent dire tout ce qu'ils ont en tête, tout ce qu'ils ont dans le cœur, sans avoir peur de la réaction du Seigneur. Parce que si le Seigneur était quelqu'un donc de dictateur ou bien de qui ne permet pas à ses disciples de s'exprimer, évidemment, ils auraient honte de dire quoi que ce soit. Mais vu la relation informelle entre le Seigneur et ses disciples, alors ils n'ont pas hésité à dire tout ce qu'ils avaient en tête. Et c'est ça exactement ce qu'on doit faire. C'est que quand on forme une équipe avec des prêcheurs, il faut que nous développions donc une relation informelle avec les serviteurs qui nous aident pour qu'ils puissent parler sans aucun problème. Donc, pourquoi des relations informelles? Pour deux raisons. Première raison, c'est afin de surmonter donc toutes les barrières psychologiques entre les personnes qui nous aident et nous. Donc ça, c'est un point. Et un deuxième point, afin donc de leur aider à dire tout ce qu'ils ont en tête et dans le cœur. Sans tout ça, ils ne vont jamais nous aider à avancer dans notre projet donc d'évangélisation. Ok? Donc ça, c'est l'étape d'analyse. En appliquant cela à ce qu'on a vu, donc quels sont les problèmes? On a dit donc que le problème principal, c'est qu'on avait une audience fatiguée et affamée. On ne peut pas donc les laisser partir comme ça tout de suite. Quel est notre objectif? Leur donner à manger. Troisième question, quels sont les moyens dont on dispose? Comme on est dans un lieu trop isolé, on ne peut rien acheter, donc on dispose quasiment de rien. Il n'y avait rien, tout ce qu'ils ont trouvé, c'est soit aller acheter et on n'a pas suffisamment d'argent, soit les 2 poissons et les 5 pains. Quelles sont nos limites? Il va faire nuit, donc on ne peut pas se déplacer. Donc une raison de plus pour qu'ils ne partent pas. Et quelles sont les alternatives? Donc la dernière alternative, c'est que le Seigneur intervienne. Ok? Et évidemment, comme on va le voir dans l'étape suivante, lui, il ne va pas intervenir qu'après que tous les disciples ont déjà proposé leur solution. Ok? Et c'est ça la troisième étape. Donc on a vu, première étape, c'est qu'il faut réfléchir, il ne faut pas proposer des solutions immédiates avec notre équipe pour les aider à bien réfléchir. Donc ça, c'est un point. Et après, une fois qu'on réfléchit, il faut bien analyser la situation. Et en analysant la situation, il faut donc répondre à 5 questions principales. Donc, quel est le problème auquel on fait face? Quel est notre objectif? Qu'est-ce qu'on veut faire? Quelles sont nos limites? Quelle est la marge dans laquelle on peut travailler? Quatrièmement, quels sont les moyens dont on dispose afin donc de réaliser cet objectif? Et finalement, quelles sont les autres alternatives si un de ces moyens ne marche pas? Donc, pour trouver les solutions, il faut nous rappeler donc que nous servons des gens qui ont des problèmes et qui veulent des solutions. évidemment donc les personnes qu'on va prêcher donc en Afrique ont plein de problèmes, aussi bien des problèmes matériels qu'immatériels. Donc ils ont des problèmes liés à la pauvreté, à l'illettrisme, ils n'ont pas accès à l'éducation, à la santé, à l'eau, donc tous les problèmes matériels possibles et imaginables. Et en même temps, ils ont aussi des problèmes immatériels qui sont liés à, par exemple, à ce qu'ils, le fait même de ne pas connaître le Seigneur, le fait de ne pas avoir des croyances, et évidemment tout cela a des répercussions négatives sur leur morale. Donc, ces gens ont des problèmes, et nous, on leur propose des solutions. Et donc, comme Abou Daoud l'a dit dans la journée spirituelle, c'est que ces gens qu'on va donc évangéliser ont besoin aussi bien, ils ont des besoins matériels et des besoins immatériels. Et nous, on peut pas les satisfaire leurs besoins immatériels et on leur dit, débrouillez-vous avec vos besoins matériels. Mais évidemment, c'est pas le cas, parce que nous, en tant que serviteurs et en tant que prêcheurs, il faut les aider à satisfaire aussi bien leurs besoins matériels que leurs besoins immatériels. Donc, après avoir bien analysé la situation, il faut commencer donc à chercher partout quelles sont les solutions possibles. Et donc, dans cette étape, comme le Seigneur il a fait, il faut être à l'écoute de toutes les propositions provenant donc du public ou bien de l'équipe qui nous aide. Ok ? Et évidemment, même les solutions impossibles à réaliser. Et la seule chose, ou bien la chose la plus importante qu'il faut éviter, c'est éviter les solutions simples ou bien les solutions faciles à réaliser, et comme on le dit, les solutions qui sont des prêt-à-porter, donc les solutions ready-made. C'est-à-dire, Philippe, la première solution qu'il avait en tête, c'était quoi ? C'était, il faut acheter. C'est la solution la plus logique, la plus, on va dire, facile à réaliser, même si on n'a pas d'argent. Donc, il faut surtout éviter ça. Mais il faut plutôt aller dans une direction avec des solutions, on va dire, créatives, ou bien des solutions peut-être inhabituelles, tout à fait, afin de résorber le problème en place. Donc, d'un point de vue humain, les solutions qu'on trouve normalement sont parfois trop modestes, comme ce qu'a fait Philippe. Donc c'est une solution très modeste, logique, habituelle, très monotone. Il faut avoir de l'argent pour résoudre ce problème. Mais d'un point de vue, on va dire, spirituel, c'est pas le cas. Parce que si on prend en considération le fait que le Seigneur, il peut nous aider à avoir en tête des solutions plus ambitieuses, donc dans ce cas, on va avoir toute une autre pensée. Et c'est ça justement ce que dit Saint Paul dans son épître aux Corinthiens, aux Philippiens, c'est que je puis tout par celui qui me fortifie. Donc si on prend cette dimension en tête, donc on peut être sûr et avoir confiance donc en Dieu qu'il peut nous aider à faire une solution au-delà de nos capacités. Parce qu'évidemment, dans le cas qu'on a vu du miracle de la multiplication des pains, nos capacités ne nous permettent de faire quasiment rien. Mais si on se fie à ce qu'a dit au Seigneur et on lui demande d'intervenir, il peut prendre donc juste 2 poissons et 5 pains et faire avec ça un miracle qui dépasse donc toute imagination possible. Donc, d'un point de vue humain, je répète, donc les solutions qu'on trouve sont normalement trop modestes, comme on se focalise sur nos capacités, qui par défaut sont toujours limitées, parce que nous, on est des êtres humains et on est limités, donc nos capacités sont aussi limitées. Mais d'un point de vue spirituel, on peut être très ambitieux, trouver des solutions qui peut-être, à très court terme, qui sont pas très réalistes, mais qui, avec la grâce du Seigneur, peut devenir très bien réaliste. C'est-à-dire que si, par exemple, on entre dans une ville particulière et on trouve que cette ville, le péché dans cette ville est très important, ces gens sont très éloignés du Seigneur, et donc, si c'est, on va dire, donc du premier coup, c'est frustrant. On va dire si on va se contenter de nos capacités tout seul, on va jamais pouvoir aboutir à faire quelque chose. Mais si on a en tête le fait que je puis tout par celui qui me fortifie et qui est le Christ, évidemment, on peut donc convertir tous les chrétiens, tous les gens de cette ville au christianisme. Ok, et c'est ça justement ce qu'a fait le Seigneur avec ses disciples, parce que personne n'aurait imaginé qu'un pêcheur comme Saint Pierre, ou bien Saint André, ou bien qu'un collecteur d'impôts comme Saint Matthieu aurait pu bouleverser le monde comme ce qui est dit dans l'Acte des Apôtres. Et même Saül, qui était le principal, la principale personne qui torturait les chrétiens, donc au premier siècle, personne n'aurait imaginé que ce même apôtre sera donc l'apôtre des païens et des nations. Donc toujours avec le Seigneur, toute solution peut se transformer d'une solution monotone, banale, humaine, à une solution très ambitieuse, même si elle est irréaliste, mais elle peut devenir réaliste. Ok ? Et donc qui dépasse nos capacités. Et ça, c'est un point très important. Pourquoi la solution va normalement dépasser nos capacités, pour que, en fin de compte, ça soit pas nous qui sommes glorifiés, mais c'est le Seigneur qui soit glorifié. Et c'est ça ce que dit Saint Paul donc à son épître aux Corinthiens, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Il y a confort de l'croa, l'amen. Ok? Donc c'est ça. L'idée donc de penser, c'est bien de penser en termes de nos capacités limitées pour reconnaître nos limites humaines, mais en même temps de se fier au Seigneur pour qu'il puisse intervenir et qu'il nous donne donc des solutions beaucoup plus ambitieuses et au-delà de nos capacités. Ok ? L'application à ce qu'on a fait, donc face à ce problème, le Seigneur donc voulait éprouver ses disciples, non pas pour leur faire passer un examen, mais pour leur apprendre à réfléchir et à se débrouiller. Donc après avoir réfléchi, on a vu qu'il y avait deux propositions principales. Une solution donc habituelle, normale, c'est ce qu'a dit Philippe. Philippe lui répondit, le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. Et après, ce qu'a dit André, c'est une solution possible, mais difficile à réaliser. Parce qu'André, il a dit, un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela fera, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Donc évidemment, lui, avec sa logique humaine, il disait, voilà ce qu'on a, tout ça ce qu'on a, mais ça ne sera jamais suffisant pour donner donc de quoi manger à tous ces gens. Et ce qu'on a vu donc au début, c'est que le Seigneur était donc à l'écoute de tous ses disciples avec leurs solutions. Et la solution qui a marché en fin de compte, c'était la solution inattendue. C'est que les 5 pains d'orge et les 2 poissons étaient vraiment le moyen ou bien la source qui va rassasier les gens, qui sont donc 5000 personnes, sont les femmes et les enfants. Donc on peut dire, si on a donc 5000 hommes et en moyenne il y a un homme, une femme et 2 enfants, donc il y avait entre, on va dire, 5000 et 20000 personnes qui ont mangé avec 2 pains et 2 poissons et 5 pains. Donc c'est impossible avec le Seigneur, c'est impossible sans le Seigneur, mais avec le Seigneur c'est fort possible. Donc tout est réalisable avec l'intervention et la grâce du Seigneur. Et donc justement, donc c'est une question de foi. Même si André, au début, il a posé cette question avec frustration et avec déception, voilà Seigneur ce qu'on a, c'est très limite, ça sera jamais suffisant pour alimenter les gens, mais voilà, c'est ça ce qu'on a. Mais il n'a pas fait cette proposition avec foi ou bien avec certitude que le Seigneur puisse transformer cela. Ok, il a posé juste parce que voilà, Seigneur, c'est ce qu'on a. Donc c'est une question de foi, le peu peut devenir abondant entre les mains du Christ. Ok, et donc après cela, une fois que donc on avait au début le système On avait au début donc le problème avec toutes ces dimensions. Le Seigneur ne l'a pas résolu. Il a aidé donc ses disciples à bien réfléchir et à penser comment résoudre ce problème. Ils ont analysé ensemble le problème. Il fait nuit. Il y a du monde. On est dans le désert. Comment faire? Donc il faut trouver une solution compte tenu de nos moyens très limités et en même temps qu'on n'a pas beaucoup d'alternatives. Troisième chose que le Seigneur a faite avec eux, c'était donc qu'il leur a aidé à trouver une solution. Donc le Seigneur, ce qu'il a fait, donc il a fait deux choses principales. Première chose, il a évité les solutions prêtes à porter ou bien les solutions habituelles, normales. Il était plus en faveur des solutions créatives ou bien des solutions inhabituelles. Et deuxième point qui est très important, c'est qu'il était à l'écoute de ses disciples. Donc toutes les solutions, même on va dire, si j'ose dire les solutions bêtes, il les a écoutées. Ok? Pourquoi? Parce que, on va dire, afin d'encourager ses disciples pour faire sortir tout ce qu'ils ont en tête et dans le cœur pour résoudre le problème ensemble. Donc une fois qu'il a trouvé, on va dire, la bonne solution, qui est les deux poissons et les cinq pains d'orge, il faut donc résoudre le problème avec un système très bien clair. Et c'est ça ce qu'a fait le Seigneur. Donc une fois qu'on a trouvé la bonne solution, il faut avoir un système ou bien une stratégie pour la mise en place de la solution. Et on sait que très bien que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il a laïs ilah tashwish wa lakin ilah salem. Donc il faut avoir une stratégie et un système très bien défini, très bien clair pour la mise en place de la solution. Il faut avoir aussi une base de données, c'est-à-dire avoir les effectifs des personnes qu'on doit servir, par exemple, dans n'importe quelle ville. Il faut très bien comprendre quelles sont les villes qu'on va servir, quel est le pourcentage des athées dans cette ville, quel est le pourcentage des croyants, est-ce que ces croyants sont des chrétiens, s'ils sont des chrétiens, est-ce qu'ils sont des orthodoxes, des catholiques, des protestants, est-ce que ces gens sont riches ou bien ils sont pauvres. Est-ce qu'ils ont accès à une école, à une bonne santé, tout ça. Donc il faut avoir une bonne base de données de départ pour bien mettre en place le service d'évangélisation. Parce que si on n'a pas cette base de données, on peut aller dans une ville, par exemple, où il y a 90% des orthodoxes et juste 10% des athées. Et donc ça peut notre effectif, par exemple, peut être plus que ce dont a besoin cette ville. Donc il faut bien avoir en tête comment quels sont les effectifs des personnes qu'on veut servir afin donc de préparer l'équipe convenable et adéquate qui va servir là-bas. Troisièmement, c'est avoir donc des étapes matérielles et spirituelles pour que tout soit en ordre. Donc, on va voir après dans l'analyse de l'extrait de ce miracle, c'est que le Seigneur a mis en place des étapes très claires, aussi bien au niveau matériel qu'au niveau spirituel, pour la distribution du pain qui a été multiplié après le miracle. Ok? Donc, tout d'abord, le Seigneur, comme on l'a dit, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre et non pas un Dieu de désordre. Donc, il a ordonné à ses disciples de répartir ces 5000 personnes en des groupes de 50. Pourquoi? Parce que ça sera beaucoup plus pratique de distribuer le pain et les poissons pour des petits groupes que pour des grands groupes. Donc, la première étape, c'est que, par souci d'ordre, Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir pour par rangées de 50. Ils firent ainsi et ils les firent tous asseoir. Donc il ne faut jamais commencer à servir ou à prêcher sans avoir en tête le système ou la répartition des prêcheurs et des serviteurs sur les personnes qu'on va servir. Et donc afin de pouvoir atteindre tout le monde et que ça soit bien organisé. Deuxièmement, et ça c'est un deuxième principe très important, il ne faut jamais commencer à servir sans prier. Et c'est donc ce qu'a fait le Seigneur avant le miracle. Donc Jésus-Christ est le Seigneur, c'est Dieu. Il n'a pas besoin de prier, mais il a prié pour nous apprendre à prier. Et donc, comme ce qu'il a dit lors du baptême, quand Saint Jean-Baptiste lui a dit « Non, Seigneur, je ne peux pas te baptiser », alors le Seigneur Jésus lui a dit « Non, laisse faire pour que nous puissions compléter toute justice. » Donc, c'est ce qu'a fait là. Il prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les rompit. Donc, avant de faire le miracle, il a prié. Donc, ça, c'est une étape spirituelle. Donc, on a vu, première étape, c'est une étape, on va dire, logistique ou bien une étape matérielle avec l'ordre. Deuxième étape, c'était une étape spirituelle. Et puis, troisième étape, c'est la distribution. Donc, il les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Et donc là, on voit très bien que ce n'est pas le Seigneur qui a distribué lui-même ni les pains ni les poissons. Mais il a donné donc à ses disciples pour qu'ils distribuent. Et pourquoi il a fait ça? Pour permettre à ses disciples de prendre le relais et de commencer donc à servir les gens, parce que eux, s'ils commencent à distribuer le pain, ils pourront apprendre après à d'autres gens de distribuer le pain, et ça sera un effet domino, donc d'une personne à l'autre. Mais si le Seigneur va prendre le monopole de tout distribuer, donc ça va finir, évidemment le Seigneur peut tout faire, mais ça sera lié à la personne du Seigneur. Mais c'est pas ça ce qu'a voulu faire le Seigneur, mais il a voulu que ça soit propagé d'une personne à l'autre. Puis, on lit dans le même extrait qu'il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent, jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Et donc, on voit là très bien que c'était un principe de générosité. C'est-à-dire, en servant des gens, il faut être généreux avec eux, il faut leur donner jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés, aussi bien au niveau spirituel qu'au niveau matériel. Donc, tant que les gens qu'on sert veulent apprendre, et par exemple veulent prier, veulent lire la Bible, et ainsi de suite, il faut leur donner avec générosité. Et pourquoi avec générosité? Parce que le Seigneur, à son tour, avec nous, il est très généreux, il ne nous prive de rien. Et donc, nous, on ne peut pas priver les gens qu'on sert de leurs besoins ni matériels ni spirituels. Ok? Mais en même temps, bien que le Seigneur ait été donc généreux, il est très sage. Parce qu'après le miracle, et après avoir distribué tout le pain et les poissons donc à ce public très nombreux, il a dit à ses disciples de ramasser tout ce qui reste, aussi bien pour les poissons que pour les pains, ramasser les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Donc, et on voit qu'ils ont ramassé les 12 paniers, et comme quoi chacun d'entre vous, d'entre les disciples, va porter un de ces paniers pour l'utiliser après. Et c'est ça donc qui débouche sur le point suivant, qui est donc le point d'émission. Ils les ramassèrent donc, ils les remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Donc, le Seigneur, pour récapituler un peu toutes les étapes ou bien tous les principes que le Seigneur a mis en place, on a vu tout au début que le Seigneur n'a commencé ce miracle qu'après avoir demander à ses disciples d'avoir un certain ordre pour que ça soit bien organisé. Donc ça, c'était la première étape. Puis, il a prié avant son service. Troisième étape, il a demandé à ses disciples de distribuer le pain et les poissons, et c'est pas lui qui l'a fait, afin de permettre à ses disciples de prendre le relais de l'évangélisation. Puis, quatrième principe, c'était une générosité. Et pour nous, cette générosité doit avoir lieu au niveau spirituel et au niveau matériel. Il faut être généreux avec les gens qu'on sert. Cinquième principe, c'est un principe de sagesse. Il ne faut pas laisser donc nos ressources matérielles gaspillées. Il ne faut pas les gaspiller, mais par contre, il faut être très sage pour que rien ne se perde, comme ce qu'a fait le Seigneur après le miracle. Et dernier point, et ça c'est le point qui nous concerne vraiment et qui est le plus lié à ce qu'on fait, c'est que le Seigneur donc a donné à chacun de ses disciples un panier pour que eux à leur tour commencent à prêcher. Et donc c'est ça vraiment le dernier point qui nous concerne en termes de développement d'une équipe locale. Ok? Donc après le miracle, ça c'est juste les derniers points pour terminer ce miracle. C'est que Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Donc on voit que le Seigneur, il a fait deux choses. Première chose, c'est qu'il s'est retiré tout seul. Évidemment, pourquoi se retirer? Pour plusieurs raisons. D'abord, pour prier, pour remercier le Seigneur pour ce miracle, pour méditer, pour évaluer ce qu'il a fait. Et donc exactement pour nous-mêmes. Il faut donc nous retirer après notre service pour évaluer ce qu'on a fait avec les gens, pour remercier le Seigneur pour nous avoir donné l'opportunité de servir les gens et de le servir lui-même, pour méditer dans quelle mesure le Seigneur nous a aidés à réaliser ce service et évidemment, ça c'est le point le plus important, pour voir ce qu'on doit faire après. Ok? Pourquoi la montagne? Parce que la montagne, elle permet donc de prendre un peu de distance par rapport à la terre. C'est loin, c'est très élevé, c'est un lieu très élevé, donc on peut rester tout seul, loin des soucis de la terre. Et c'est un lieu de silence, ce qui nous permet de bien réfléchir, de méditer et de prier. Donc trois dernières remarques, et on termine avec ça. Donc le Seigneur aurait dû leur donner de l'argent, pour qu'ils puissent aller chercher ce dont ils ont besoin, mais il n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce que on sait très bien dans la Bible qu'il y a un principe de base, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc le Seigneur, il voulait être sûr que eux, comme ils sont rassasiés, il va leur donner suivant leurs besoins, c'est-à-dire la faim, et non pas pour prendre de l'argent et gaspiller cet argent dans n'importe quelle autre chose. C'est pour ça donc que le Seigneur a choisi les poissons et les pains d'orge à l'argent. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, le Seigneur aurait dû distribuer le pain et les poissons, mais il a permis à ses disciples de le faire. Pourquoi il a permis à ses disciples de le faire? Parce qu'il termine, comme on l'a vu dans la fin donc de l'évangile selon saint Matthieu, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai écrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ça c'est l'histoire des 12 paniers que chacun des disciples a pris en partant. Donc, parce que l'idée principale, c'était que chacun de ses disciples puisse aller dans le reste du monde et faire du reste du monde des disciples. Dernière remarque, le Seigneur aurait pu imposer des limites aux besoins des gens, mais il était généreux. Pourquoi il était généreux? Parce que on lit dans l'acte des apôtres, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Le Seigneur toujours, il nous donne avec abondance et avec générosité. Et c'est pour cela qu'il n'a pas imposé des limites, ni matérielles, ni spirituelles, sur les besoins des gens. Ok? Donc, conclusion, importance du miracle, on a dit donc qu'il est cité dans les quatre évangiles, dans l'évangile selon saint Matthieu 14, Marc 6, Luc 9 et Jean 6. Même pour l'Église, on lit cet extrait donc quand on a un cinquième dimanche dans les mois coptes. Et donc, ce miracle est plein de leçons pour former des disciples. Et donc, avant de terminer, je récapitule avec les quatre étapes que le Seigneur a faites pour former son équipe. 1. Il les a aidés à réfléchir sans proposer des solutions immédiates. 2. Il les a aidés à analyser le problème qu'on a en place. Donc ce problème, il faut voir quelle est la nature du problème, quel objectif on veut réaliser, quelles sont les alternatives, quelles sont les limites et quels sont les moyens dont on dispose. 3. Étape, c'est qu'il les a aidés à trouver une solution. Donc, ils ont trouvé une solution qui n'était pas une solution prête à porter ou habituelle. C'était une solution très créative, inhabituelle, qui, par la grâce du Seigneur, était tout à fait réalisable et faisable. Et donc, il faut toujours qu'on se fie au Seigneur pour que les solutions impossibles deviennent possibles et réalisables. Et dernière étape, c'est que le Seigneur a mis en place un système très bien clair pour la mise en place de cette solution. Donc, il a demandé tout d'abord qu'un ordre soit en place avant de commencer le miracle. Il a prié, puis, troisième étape, après la prière, il a donné à ses disciples pour qu'ils donnent aux gens. Après, il a... quatrième étape, qu'est-ce qu'il y avait ? Oui, donc il a donné avec générosité, avec abondance, sans imposer des limites sur les besoins des gens. Puis sixième étape, la sagesse afin donc de rien gaspiller et que rien ne se perde. Et dernier principe, c'est qu'il a donné à chacun de ses disciples un panier pour qu'eux-mêmes, ils aillent prêcher auprès des gens. Ok ? Puis, un point très important, c'est qu'après n'importe quel service, après nos propres services, il faut donc aller rester un peu seul pour faire quatre choses. Première chose, pour prier et remercier Dieu de nous avoir donné l'opportunité de le servir et que le service s'est bien passé. Deux, de méditer, d'évaluer un peu ce qu'on a fait, ce qui était bien, ce qui était pas bien, les moyens qu'on avait étaient suffisants pour les gens. Trois, pour prier, pour remercier Dieu, pour méditer, et finalement pour voir ce qu'on va faire après, une fois qu'on a terminé le service initial. Donc, pour les références, donc évidemment, les deux principales références sont l'évangile selon Saint Luc et l'évangile selon Saint Jean, où il y a plus de détails par rapport à Saint Matthieu et Saint Marc. Et évidemment, le cours d'Abuna Daoud en anglais, The Disciples Project. Et voilà, questions, commentaires. Ok, et gloire à Dieu éternellement.